Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Flore Vesco. Flore Vesco, voulez-vous vous présenter?
Bonjour, merci de m'accueillir. Donc, je suis Flore Vesco, j'écris des romans pour la jeunesse qui, je pense, peuvent être lus aussi par la vieillesse. Et je suis très heureuse de faire partie de votre émission aujourd'hui.
Merci. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la littérature jeunesse?
Alors, j'y suis allée très naturellement. Je ne pense pas avoir été poussée. J'ai toujours aimé lire. J'ai lu évidemment de la littérature jeunesse quand j'étais jeune. J'ai pas arrêté d'en lire. J'ai continué à lire de la littérature jeunesse en vieillissant. Et je crois que toutes mes bonnes idées marchent très bien pour la jeunesse. J'aime bien avoir des héros qui sont jeunes. J'aime bien avoir des idées d'initiation, des héros qui découvrent des choses pour la première fois, qui cherchent leur voie, qui découvrent leur pouvoir. Et je crois que c'est des thématiques qui marchent très très bien en jeunesse. Donc pour le moment, en tout cas, c'est autour de ça que je tourne. Peut-être un jour j'irai voir ailleurs. Mais je suis très heureuse d'être publiée en jeunesse actuellement.
Est-ce que votre métier d'enseignante vous inspire pour écrire?
Alors, le métier d'enseignant, il faut que je précise, mais ça, c'est de ma faute. Il y a très longtemps, quand j'ai publié mon premier roman, et c'était il y a 10 ans maintenant, même un peu plus, parce que c'était avant la publication, on m'a demandé de faire une biographie. Et je me suis retrouvée un peu embêtée parce que j'avais fait plein de petits jobs, j'avais bougé à l'étranger, j'avais l'impression que j'avais pas une biographie hyper sérieuse et bien posée. Et ma seule expérience professionnelle qui était un peu présentable, c'était d'avoir été prof. Donc j'ai écrit dans ma toute première biographie que j'avais été professeur. Mais le fait est que j'ai été professeur que 3 ans et avant mes 30 ans, et j'en ai aujourd'hui 44, bientôt, 43, 44 cette année. Ensuite, il s'est passé ce truc étrange où j'ai mis beaucoup de bêtises dans ma biographie, plein de choses farfelues, et donc je pense qu'à chaque fois que quelqu'un met une information sur Wikipédia ou crée une biographie à partir des infos que moi j'ai un peu disséminées sur le web, les gens se rattachent à cette expérience qui revient énormément de professeurs. Mais malheureusement, elle n'est pas le reflet de ma carrière en fait. Ça a été un tout petit bout de ma vie il y a très 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 longtemps. Donc j'ai été prof, j'ai adoré ça, mais je crois pas que ça m'ait influencé parce que, comme je viens de le dire, c'était un bref moment de ma vie d'adulte. Et après ça, j'ai fait plein de choses, j'ai voyagé, et puis surtout maintenant, j'ai la chance d'être publiée et d'en vivre depuis ouais, presque 10 ans.
Est-ce que ça vous arrive de parler de vous dans vos œuvres?
Alors non, je crois pas. Enfin, la question est intéressante et on ne peut pas avoir une réponse unilatérale, je pense. On met forcément de soi dans ses œuvres. Mais je ne le fais pas de façon consciente. Je ne mets pas des gens de ma famille ou de mon entourage. Et je ne crois pas qu'il me soit jamais arrivé de vivre quelque chose et de me dire je vais le mettre dans un livre. J'ai des romans qui sont inspirés des contes, qui sont plein de surnaturel et de fantastique. Et il se trouve, hélas, que je n'ai encore jamais croisé de loup-garou. Donc, mes romans sont beaucoup inspirés d'autres lectures, d'autres personnages, de fiction que moi-même j'ai aimé. Ouais, ils sont le reflet de qui je suis, mais ils sont pas d'inspiration autobiographique directement.
Comment choisissez-vous vos sujets?
Ah, je sais pas. En fait, je cherche clairement. Il y a d'abord ça. C'est drôle parce que la question fait résonance pour moi, parce qu'en ce moment, je suis en train d'essayer d'écrire un nouveau roman. Et je ne sais pas du tout sur quoi ça va porter. Donc, je sais qu'il y a toute une période, et elle peut être longue, elle peut durer plusieurs mois, où je cherche, je lis, je réfléchis. Ce qui est particulier pour moi maintenant, c'est que je réfléchis aussi à essayer de faire des choses nouvelles par rapport à ce que j'ai déjà fait moi. Je suis sans doute aussi un peu influencée par les romans qui ont déjà marché de ma bibliographie. Alors, en me disant, faut que j'essaye de faire des choses comme ça, mais en même temps, faut pas que je refasse la même chose. Enfin voilà. En tout cas, je cherche. Et à un moment, pour une raison ou pour une autre, il y a un truc qui est plus brillant et qui m'attire, et je sais que ça va être mon nouveau projet. Je sais pas si c'est un thème ou si c'est une idée ou si parfois c'est aussi un peu un élément stylistique, une sorte de ton. Mais quand j'ai trouvé ça, après je me lance et je développe l'idée et elle prend forme. Mais je crois pas partir d'un truc très précis et comment le truc surgit est encore à ce jour un peu mystérieux. Désolée, ma réponse est très vague, mais débrouillez-vous avec ça. Je ne sais pas comment marche mon cerveau.
Quel est votre rapport à l'histoire et au Moyen Âge?
Alors, mon rapport à l'histoire est très amateur. Je ne suis pas spécialiste du tout. À chaque fois que je fais un roman qui se passe à une période, je lis des livres, enfin, je me renseigne, je fais des recherches sur la période en question, juste pour savoir et pour éviter quand même de mettre des grosses bêtises. Mais ensuite, je choisis forcément de m'en éloigner parce que je ne suis pas historienne et que je ne fais pas des romans historiques. Et donc, pour le cas du Moyen-Âge, par exemple, j'ai fait des recherches parce que moi, j'avais une vision du Moyen-Âge comme une espèce d'âge un peu sombre où personne ne se lave, où on meurt tous très tôt, où les gens sont très cruels et froids. Enfin, je ne sais pas, j'avais cette espèce de vision comme ça, de temps assez sombre. En faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'était faux, qu'on avait une vision vraiment basée sur beaucoup de stéréotypes, que les gens se lavaient, que les gens étaient très, très attachés à la famille. Enfin, voilà, il y avait plein de choses. Mais c'était moins marrant ensuite pour en faire un roman. Donc, je suis repartie ensuite sur les gros clichés du Moyen-Âge, sur, par exemple, la saleté, ces choses-là. Donc, j'ai un rapport très décomplexé à l'histoire, en fait, si on résume.
Pourquoi avez-vous choisi des figures historiques comme Louis Pasteur et Gustave Eiffel comme héros de vos romans ?
Alors, je l'ai fait qu'une fois pour le moment, et c'était pour cette série, et je trouvais ça amusant de, justement, on en revient à la question qu'on a abordée tout à l'heure sur mon rapport très décomplexé à l'histoire. Je trouvais amusant de prendre un personnage historique pour lequel il y a des biographies, pour lequel on sait quand même ce qu'il a fait, et de le récupérer et le mettre dans un contexte totalement fictionnel, avec des monstres, avec du surnaturel, du fantastique. Donc c'était le mélange entre histoire et science, donc quelque chose de prouvé et surnaturel qui me plaisait.
Pourquoi revisitez-vous les contes comme La princesse au petit pois et Le petit poucé ?
Alors c'est ma période d'ensuite. J'ai eu ce goût de récupérer des personnages historiques pour les mélanger avec l'histoire, avec le surnaturel, et puis ensuite je suis passée aux contes. Et c'est vrai que c'était mes trois derniers romans sont tirés de contes. J'aime bien le conte, je pense, à la base. C'est une matière malléable qui a toujours été pensée pour être réécrite, repensée. Donc quand j'ai réécrit un conte, je sais que plein d'autres gens l'ont fait avant moi, et j'aime l'idée d'être dans une continuité, de passer après plein d'autres écrivains et écrivaines. Le conte, c'est une matière qui parle à tout le monde. Au tout début, quand je me suis présentée, j'ai fait une petite boutade en disant que j'écrivais pour la jeunesse, mais aussi pour la vieillesse. Depuis 10 ans que je publie, ça se confirme, j'ai des lecteurs qui ont des âges extrêmement variés, des adultes, des ados, des très jeunes. Et je trouve que forcément, ces différents lectorats ont des références pas semblables. Enfin, entre une personne qui a 50 ans ou 20 ans ou 10 ans, ils ne connaissent pas les mêmes films, ils n'ont pas lu les mêmes choses. Par contre, le conte, tout le monde connaît. Donc j'ai ce goût aussi du conte parce que je crois que c'est intergénérationnel et ça va bien pour mon lectorat.
Parmi vos différents romans, lequel préférez-vous et pourquoi ?
Alors, on me le demande souvent et je refuse catégoriquement d'en singulariser un. Plus tard, peut-être, en les relisant avec du recul, donc il va me falloir un peu de temps. Pour le moment, je les connais trop pour pouvoir faire ça. Je me rendrai compte qu'il y en a un qui est peut-être moins inspiré ou qu'il y a des choses que j'aurais pu mieux faire sur tel ou tel titre. Mais même quand ça arrivera, ça ne sera pas une raison pour moins l'aimer. Donc, tous mes romans, je les aime bien. Ce sont mes bébés.
Faites-vous des recherches spécifiques sur le vocabulaire pour écrire vos romans ?
Oui, toujours. Je ne suis absolument pas un dictionnaire ambulant. Je sais qu'il y a beaucoup de lexique dans mes ouvrages. C'est du lexique en plus différent un peu à chaque fois. Pour Louis Pasteur et Gustave Eiffel, c'est du lexique scientifique, mais alors en plus scientifique un peu du 19e, scientifique un peu vieillot. Pour L'Estrange Malaventure de Mirella, ce sont des mots inspirés du Moyen-Âge. Je fais ça à chaque fois, en fait. Donc je fais des recherches avant la rédaction du roman, et puis je fais des recherches toute l'année hors écriture, c'est-à-dire que j'ai un petit carnet, que j'aime beaucoup. Et enfin, j'en ai plusieurs, parce que j'ai commencé un carnet, puis il était un peu fouillis, et j'arrivais pas à naviguer dedans, donc je m'en suis fait un nouveau, un peu mieux classé. Mais quand je lis et que je tombe sur un mot que je connais pas et que j'aime bien, ou même un mot que je connaissais, mais que j'avais, auquel j'ai pas pensé, un peu ancien, un peu vieux, un peu original, je le note. Et donc, avec tout ça, au bout d'un moment, je réutilise à ma sauce.
Est-ce qu'on peut parler d'un style Florvesco?
Oui, c'est beau. Parler d'un style Florvesco, je serais très flattée. Ça, c'est drôle, je ne sais pas. Moi, je suis certaine, en tant que lectrice, que je repère le style de certains écrivains, mais parce que j'ai un regard extérieur et je vois bien. Des fois, j'entends même la voix, si c'est un écrivain que je connais. Donc, je suis capable de dire pour les autres que oui, ils ont un style, et j'espère, je ne suis pas capable moi-même de juger mon propre style, mais j'espère que les lecteurs et les lectrices, quand ils ouvrent un roman de moi, que ce soit une réécriture de conte, ou un roman fantastique, ou de Capet de Meaux qui n'est ni inspiré de la science, ni une réécriture de conte, ils reconnaissent quand même que c'est ma patte. Si c'est le cas, j'ai un style Florvesco et c'est tant mieux.
Quel prix littéraire préférez-vous parmi tous ceux que vous avez remportés?
Je vais vexer des gens si je réponds à la question. Il est toujours très flatteur d'avoir un prix littéraire. Les prix littéraires sont différents, je pense, selon qui est dans les jurés. Il y a des jurés adolescents ou jeunes, il y a des jurés adultes. J'ai eu différentes sortes de prix venant de différents jurés. Il y a des jurés, je suis en train d'oublier aussi par exemple le prix sorcière, où ce sont des libraires, enfin, c'est des adultes, mais en plus ce sont les libraires de toutes les librairies sorcières. Et voilà, j'ai cette chance-là d'avoir gagné des prix attribués par des jeunes, attribués par des professionnels du métier, attribués par des adultes médiateurs du livre, journalistes, blogueurs, etc. Et il y a des prix de blogueurs aussi, tiens, je suis en train de penser. Et dans tous les cas, c'est toujours, toujours une vraie reconnaissance et c'est très chouette.
Que pensez-vous de l'adaptation en BD de certaines de vos œuvres?
Alors, je suis très heureuse, j'ai cette chance pour le moment d'avoir donc deux de mes œuvres qui ont été adaptées en BD. Scoop, il va y en avoir une troisième, personne ne le sait, je vous l'annonce, vous l'avez en exclusivité pour votre radio. Deux Capets de Meaux a été adapté en BD par Keras Coet. J'ai eu la chance de pouvoir participer au scénario et ça a été une super expérience et j'adore cette BD. Je trouve qu'elle est très réussie. Je trouve que leur dessin est vraiment dans l'esprit de mon roman. Ensuite, D'or et d'oreiller a été adapté en BD par Mayalen Goust. Je la trouve merveilleuse, cette BD, et je le dis avec d'autant plus de détachement que je n'ai pas participé au scénario, je n'ai rien fait sur cette bande dessinée-là. C'est Mayalen Goust qui a tout fait. Elle a lu le roman, elle l'a adoré et elle l'a transposé en BD. Et là aussi, je trouve qu'elle a exactement senti l'ambiance du roman et qu'elle a vraiment bien réussi à rendre, par le dessin, des choses qui n'étaient pas faciles à faire en plus. Je suis très heureuse de la BD de D'or et d'oreiller. Et donc, mon super scoop pour aujourd'hui, c'est que Louis Pasteur contre les loups-garous sortira aussi en BD. Je vais faire le scénario. Enfin, je l'ai fait, en fait, mais il faut que je le retravaille. Désolée, je travaille en ce moment à ça. Et l'illustratrice sera Chin Leng, qui fait de magnifiques dessins. J'ai vu des croquis, ils sont très, très réussis. Et donc, je crois aussi, je m'avance un peu parce que c'est pas fini encore, mais que ça va donner un beau résultat.
Est-ce qu'il y a des thèmes que vous voudrez jamais faire?
Je crois qu'il faut jamais dire jamais. Pour le moment, je sais, par exemple, c'est pas un thème, mais j'ai jamais fait de roman qui se passe à notre époque, j'ai jamais fait de roman vraiment réaliste. Mais c'est pas un refus, enfin, c'est juste que mes idées m'ont porté plutôt vers d'autres choses. Honnêtement, je me suis jamais dit je ferai pas ça, je crois pas. Je suis très portée sur le roman. J'avoue que j'ai du mal à m'imaginer en train de me mettre à devenir poète ou dramaturge. Je crois vraiment pas qu'un jour j'écrirai une pièce de théâtre ou un recueil de poésie. Mais là encore, sait-on jamais.
Quand et où écrivez-vous?
J'écris chez moi, au calme. J'ai énormément de mal à écrire ailleurs. En ce moment où je me déplace beaucoup, je me dis qu'il faudrait que je rentabilise les trajets de train ou les soirées à l'hôtel. Et vraiment, j'arrive pas. Enfin, c'est difficile pour moi, hors du cadre de chez moi, d'arriver à me concentrer sur un projet d'écriture.
Quand vous écrivez des livres, est-ce que ça vous arrive de rester bloqué un moment juste parce que vous n'arrivez plus à, enfin, à continuer l'histoire ou parce que vous savez pas comment continuer l'histoire? Et si oui, comment, enfin, vous arrivez entre guillemets à réussir, enfin, à débloquer un, enfin, je sais pas si c'est clair un peu.
C'est très très clair. J'adore cette question. Alors, on me la pose souvent. Et enfin souvent, pas si souvent que ça, mais elle revient et j'adore parce que la question c'est toujours est-ce que parfois vous avez un blocage ? Ce que je trouve fascinant parce qu'en fait je n'avance que de blocage en blocage en fait, c'est pas parfois j'ai un blocage, c'est je mets 2 ans à finir un roman et j'ai un blocage toutes les 2 semaines. Je ne progresse que par blocage en fait, j'arrive à amener... Souvent, j'ai le début et j'ai plus ou moins la fin. Donc, il y a tout le milieu à remplir. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes dans un roman. Donc, j'arrive à amener mon personnage d'une étape à une autre. Et puis, bah, faut encore rechercher pour la suite. Et je ne trouve pas. Donc, je suis constamment en train de chercher. Après, je n'appellerais pas ça un blocage. C'est juste une petite montagne à gravir. Un truc à trouver. La première idée n'est souvent pas la bonne. Il faut la retravailler, rechercher. Donc voilà, des blocages, on en a tous, ou disons des petits obstacles à surmonter, des idées à trouver et qui ne viennent pas facilement. Et des techniques, si j'en avais eu une magique, je la donnerais à tout le monde et ce serait merveilleux, j'en ai pas. Je sais que physiquement, il est bon de se lever, se rasseoir, sortir dans le jardin, re-rentrer dans la maison, aller se faire un thé, enfin voilà. Si vous êtes bloqué, assis avec le clavier sous les doigts ou le stylo dans la main, il faut un tout petit peu se secouer. Ça aide énormément. Je sais, si je m'adresse aussi à des jeunes qui font des rédactions en classe, que ce n'est pas si facile que ça dans le cadre scolaire de pouvoir voilà, bouger. Mais la mise en mouvement du corps aide à stimuler le cerveau et rechercher des idées. Et dans mon cas, j'ai ce truc assez étonnant où si vraiment, vraiment je bloque, si ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines que je ne trouve pas quelque chose, je laisse tomber. Sauf que ça va me titiller en arrière-fond, je le sais. Donc je passe à autre chose. Soit je fais une autre partie du roman, soit je fais un autre projet, soit il se trouve que je dois monter dans un train pour aller faire des animations et donc pour les jours à venir, je vais être occupée. Et souvent, une fois passée la période où j'ai... pas du tout creuser l'idée, je me rassois à ma table et bam, ça vient assez vite, assez facilement. Et c'est pas... Là aussi, parfois, ça semble magique. Et en fait, je sais que quelque part, en arrière-fond, j'ai pas d'autre explication, mais mon cerveau a continué à chercher alors qu'activement, il n'était pas en train de chercher. Et il a fini par trouver.
Est-ce que vous aimeriez que vos livres ou romans soient adaptés en film ou série ?
Oui, évidemment, c'est toujours une chouette expérience. Alors, deuxième scoop. Celui-là, vous êtes plus de gens le savent parce que ça fait déjà quelques temps que je l'annonce. Louis Pasteur contre les loups-garous, on a signé les droits d'adaptation audiovisuelle. Donc, un jour, il y aura une série. Alors, ça ne sera pas du cinéma, ça ne sera pas du Netflix parce que la maison de production, qui est une grande maison de production quand même, mais elle a pas cette amplitude-là. Donc, ce qui est prévu, c'est une série de 10 épisodes de 30 minutes qui donc résumeront le roman complet avec des acteurs sur sans doute des services de streaming français. L'équipe est en train de faire le scénario. Je ne suis pas trop au courant parce que j'y travaille pas. Donc, ils font leur travail et après, il faudra qu'ils... trouve qui va incarner Constance, qui va incarner Louis Pasteur, comment trouver un loup-garou. Mais ça va être une chouette expérience et je suis assez excitée par cette perspective-là. C'est le seul de mes romans pour le moment où on a quelque chose d'à peu près sûr. C'est pour dans quelques années, là aussi. On n'a pas la date, mais à mon avis, ça ne va pas se faire tout de suite. Keras Coet, qui ont adapté De Cap et de Meaux, ils avaient très envie un jour d'en faire un film d'animation. Il se trouve qu'ils ont participé à l'adaptation en dessin animé de Toby Lolness. Et comme eux ont déjà fait ça, ils connaissent des gens dans le milieu et ils avaient assez envie de faire un film d'adaptation, un film d'animation de Cap et de Meaux. Mais ça, c'est une envie et c'est pas du tout, rien n'a été signé, c'est pas en chantier.
Avez-vous un ou plusieurs livres en cours ?
Et non, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai le scénario de la BD de Louis Pasteur contre les loups-garous qui est en retravail, on va dire, mais j'ai fait le plus gros. Il faut, en fait, en gros, il faut que je me cale avec l'illustratrice, il faut qu'on revoie certains points. Ça, c'est le projet le plus avancé. Et sinon, il faut que je me remette à faire un roman, et là, je tâtonne. On est vraiment dans les débuts, je ne sais pas de quoi ça va parler. Voilà, c'est trop embryonnaire pour que je puisse même vous dire pour quel âge ça sera ou de quoi ça parlera. Je cherche plein de pistes, et certaines me plaisent, mais je ne suis pas sûre, d'autres ne me plaisent pas. Bref, je quête.
J'ai encore deux questions par rapport à votre premier livre. Enfin, ouais. Dans quel contexte vous l'avez écrit ? Est-ce qu'un jour vous vous êtes dit « j'ai envie d'écrire un livre », ça s'est fait naturellement ? Enfin, comment
c'est une
passé
belle question. Alors, j'ai toujours écrit. J'écrivais quand j'étais enfant, ado, sauf que je ne faisais pas des romans. Parce que, alors, il y a des ados qui sont capables d'écrire des romans et bravo à eux. C'est juste que moi, je commençais des choses que je ne finissais pas ou j'écrivais de toutes petites histoires. Arrivée, j'étais jeune étudiante, je devais avoir 22-23 ans, j'ai eu vraiment envie d'écrire mon premier roman. Et il se trouve que ce premier roman-là, il n'a jamais été publié, mais il a gagné un concours. Je l'avais envoyé à un concours organisé par le Krilj, qui, je le précise, parce que j'ai une personne du Krilj sur ma gauche pendant l'interview. Et j'ai gagné, et c'était super parce qu'ils m'ont donné une bourse, ils m'ont payé des voyages sur des salons du livre, ils m'ont fait rencontrer des éditeurs. J'avais une sorte d'accompagnement à la publication. Mais ça n'a pas suffi. Ce premier roman n'a jamais été publié. Donc j'ai mis un certain temps d'abord à me remettre, d'abord à retravailler le manuscrit parce que j'avais rencontré des gens qui me donnaient des conseils, puis en fait ça ne donnait rien, puis ensuite à me remettre de cette déception-là. Et donc, une fois que tout ça, ça a été fait, qui n'a pas été facile, mais en fait, rétrospectivement, je me rends compte que j'étais jeune, que j'ai eu énormément de chance sur ce premier roman parce qu'il a eu de l'écho, il m'a même fait gagner un peu d'argent. Enfin, voilà, c'était extrêmement encourageant. Et donc, après ça, entre-temps, j'avais fait les 3 années de prof dont je parlais au tout début dans la première question. Et c'est là où j'ai arrêté. Je suis partie à l'étranger, j'ai écrit le deuxième roman, mais ça a été mon premier publié, c'est 2 cap et 2 mots.
Et par rapport aux personnages que vous avez dans vos livres, est-ce que pour vous, c'est important de bien les développer, niveau comportement, personnalité, etc. ?
Alors, c'est très intéressant aussi cette question-là, parce que dans mon cas, mais je pense que d'autres écrivains fonctionnent autrement, je ne pars pas des personnages. Je pars vraiment d'une série d'actions et de situations. Par exemple, je me dis Louis Pasteur qui va affronter des loups-garous dans un collège. Ou une jeune fille qui va devenir le bouffon à la cour de la reine. Donc j'ai vraiment ça, j'ai un personnage posé dans une situation qui m'intéresse pour certaines raisons. De là va découler certains éléments de personnalité. Louis Pasteur doit forcément être un peu courageux pour affronter des loups-garous. Cerine qui va devenir le bouffon du roi, il faut qu'elle maîtrise bien la parole. Donc ils ont souvent un talent, en tout cas, qui va leur permettre de faire ce que je veux qu'ils fassent. Mais leur personnalité est très peu développée dans ma tête au tout début, en tout cas quand j'écris. Parfois, ils n'ont même pas de prénom. Cerine, elle n'en a pas eu avant très longtemps quand j'écrivais le manuscrit. Donc j'ai ce problème-là de facilement trouver des idées et des histoires et au bout d'un moment, me rendre compte que mon personnage manque d'épaisseur. Et donc, c'est là où j'en rajoute a posteriori. Dans le cas de Louis Pasteur, par exemple, je me souviens très bien que j'avais écrit déjà une bonne partie du roman. Donc Louis Pasteur est dans son pensionnat, il affronte les loups-garous, les nuits de pleine lune, il se passe des choses, il mène l'enquête. Et peu à peu, je me suis rendu compte qu'il était pas sympathique, en fait. Certes, il était courageux, il faisait des choses, mais on s'attachait pas à lui. Donc je me suis dit, il faut le bousculer, il faut qu'il ait un peu plus d'épaisseur et un peu plus de difficulté. Comment est-ce que je peux le bousculer ? Comment est-ce que je peux lui remettre un peu de personnalité ? Et je me suis dit, il faut qu'il tombe amoureux. Le secret pour détrôner un peu ce garçon qui est trop fort et qui est très intelligent et qui est très rationnel et scientifique et qui affronte des monstres, il faut qu'il tombe amoureux et que ça le bouleverse un peu. Et c'est comme ça que le personnage de Constance a été réintégré dans l'histoire et d'un coup que j'ai construit en parallèle cette histoire d'amour et que, je pense, ça donne à Louis Pasteur beaucoup plus de présence.
On pensait faire un portrait chinois.
Ouh, ok, allez-y, c'est difficile ça, attendez, je me concentre.
Quel plat ?
Alors, je pense que je serai... Attendez, on va réfléchir ensemble, si vous le voulez bien. Je pense que je serai un plat composé, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance à mélanger la science, l'histoire, le surnaturel. Donc, une sorte de taboulé, par exemple, ou salade complète, vous voyez.
Quel animal?
Oui, j'ai un côté chat, dans le côté casanier, qui reste à la maison. À côté de moi, je vous le dis, on ne peut pas le voir à la radio, mais il y a une petite intervieweuse, une journaliste qui a fait « Oui, tout à fait, je vois tout à fait ce côté chat en Flore Vesco. » Ouais, le côté un peu casanier. Je dors beaucoup aussi, comme les chats. J'aime bien rester à la maison, je suis un peu indépendante.
Une célébrité.
Oh, c'est dur ça. Parce que c'est difficile de nommer quelqu'un sans avoir l'air prétentieux. Tu vois, si je vais chercher du côté des écrivains, ça fait un peu... comment est-ce que je peux trouver une célébrité qui me ressemble? Je sais pas. Vous avez une idée, vous? Est-ce que dans l'équipe de journalistes qui m'interviewent aujourd'hui, il y en a qui pourraient m'aider? Sinon, je mets mon joker. J'avoue que sur la célébrité... Par exemple, j'ai vraiment envie de nommer plein d'écrivains qui me plaisent, mais il y en aurait toute une plotée. Enfin, ouais.
La couleur?
Il y a des tas de symboliques de couleurs. Je ne sais pas, je ne les connais pas bien. Je pense qu'on peut partir à nouveau sur un petit camailleux, non? J'aime les tons rouges, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours ce goût-là. Et comme je disais sur cette idée un peu du composite... Je pense que j'aurai une couleur un peu, allez, chouette, chatoyante, qui change selon la lumière. Il y a un nom pour ça, tenez, attendez, on a parlé de vocabulaire. Métamère. Ouhou ! Aujourd'hui, Flore Vesco vous apprend un mot. Alors, métamère, qu'on dirait un peu une insulte, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, c'est une couleur qui change de... totalement, mais vraiment. Vous la mettez à la lumière ou vous la mettez avec moins de lumière directe et c'est plus la même couleur. Je connais le mot parce que j'ai fait une salle de bain avec des carrelages, que j'ai acheté le carrelage à Leroy Merlin et une fois posé, il n'avait plus du tout la couleur à l'achat. Et donc, c'est une couleur métamère. Je suis une couleur métamère.
La saison?
Le printemps, c'est bien le printemps. Il fait pas trop chaud, pas trop froid et on a tout qui pousse et c'est super beau. C'est fini? Merci.
Pour de jeunes écrivains ou juste des personnes qui veulent commencer à écrire, vous aurez un conseil pour soit pour commencer à écrire ou même la manière, l'inspiration, etc.
Ouais, je dirais parce que j'en vois surtout sur des jeunes écrivains, débutants, apprentis, de ne pas se bloquer sur l'orthographe, de vraiment... parce que ça n'a pas d'importance, en fait. Moi, j'ai une correctrice, une bonne idée, même avec une orthographe déplorable, reste une bonne idée. Donc essayez de passer ce syndrome d'imposture qu'on peut avoir avec la langue française, où parfois on se dit... Je connais pas bien toutes les règles. Même si on est bon en orthographe, on peut avoir un petit peu, même moi, hein, je peux l'avoir parfois, cette espèce de difficulté devant la langue. La balayer totalement, se faire plaisir, raconter une histoire dont on a envie de la raconter. Et pour un écrivain débutant aussi, je pense qu'il faut commencer en visant pas trop grand en quantité. Pas commencer avec une trilogie, pas un truc en 3 tomes avec beaucoup, beaucoup de personnages et tout un monde inventé. Même si ça peut être chouette et si c'est ça que vous avez envie de faire, surtout ne vous bridez pas parce que j'ai dit ça. Mais je pense que c'est bien de faire une petite histoire avec un début, une fin, connaître à peu près où est-ce qu'on va, connaître la fin. Et il y a plein de concours de nouvelles destinés aux jeunes, aux personnes qui ne sont pas encore majeures et aux autres. Et je trouve que c'est aussi un bon exercice. C'est sympa, si vous n'avez pas gagné, c'est pas grave, et quand on gagne, c'est quand même toujours très gratifiant, donc je conseille les concours de nouvelles aux jeunes apprentis écrivains.
Tout à l'heure, dans le portrait chinois, vous avez dit que vous ne vouliez pas nommer une célébrité.
Tu as une idée?
Oui. Non, mais du coup, est-ce que... quelle célébrité vous aimez bien du coup?
Alors, parce que vraiment, on était dans célébrité, j'ai pensé aux écrivains classiques, en fait, parce qu'il y a des célébrités aujourd'hui. Par exemple, en roman jeunesse, j'adore les romans de Clémentine Beauvais, de Caroline Solé, de Bertrand Santini, qui, selon moi, sont des célébrités. Mais c'est vrai que quand vous m'avez posé la question pour le portrait chinois, la première chose qui m'est venue, c'est des personnes comme Victor Hugo. J'aime beaucoup les romans de Victor Hugo. J'aime beaucoup Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, qui est juste plein d'aventures. J'aime Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Marcel Aimé, si vous avez l'occasion de lire Marcel Aimé, lisez La jument verte, La vouivre, c'est magnifiquement écrit. Et je pense que tout cela, ils m'ont un peu influencé. Je vois très bien, comme tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de mon carnet de vocabulaire. Il y a plein de mots qui sont piqués chez eux, plein d'idées. J'ai aussi un autre carnet qui est mon carnet de pages ou citations que j'aime beaucoup. J'ai tendance, sur les livres que j'aime bien, à mettre un petit post-it ou corner la page, vous savez, pour pouvoir relire la page qu'on aime bien. J'adore parce que, pareil, je vous le dis, comme nous sommes à la radio, mais autour de la table, il y en a plein qui ont fait « ouais, ouais, ouais ». Et il se trouve que j'ai ce problème en ce moment lié purement à l'immobilier, qui est que j'ai une toute petite maison où il n'y a pas de bibliothèque et une maison en travaux dans laquelle tout est dans des cartons. Donc, et ça fait des années. Donc, lié à cette frustration de l'absence de bibliothèque, j'ai fait ce carnet où je mets ces pages-là que j'aime bien. Parfois, je m'amuse à les recopier entièrement. Parfois, je les photocopie et je les colle. Et donc, j'ai aussi un carnet plein de citations et de passages entiers que j'aime beaucoup. Et il est beaucoup tiré des écrivains que je viens de nommer là.
Très bien. Et juste pour en revenir, du coup, vous avez cité plusieurs auteurs. Est-ce que vous lisez le même genre de livre que vous écrivez ?
Non, je crois que je lis de tout. J'apprécie le même genre de livre que j'écris. Je vois bien comme, par exemple, mon dernier coup de cœur récemment, c'est « Mille Pertuis » de Julia Thévenot. Et je crois quelque part que c'est un roman merveilleux et il ressemble un peu aussi parfois à ce que je fais. Donc j'ai ça. J'ai des coups de cœur ou des goûts pour des choses qui me ressemblent, ce qui est assez logique en fait. Hein. On fait ce qu'on aime, on lit des choses qu'on aime et on a envie de faire pareil, ça se nourrit, c'est toujours comme ça. Mais il se trouve que j'ai cette chance dans le milieu d'avoir de rencontrer des auteurs et on s'échange les livres, de rencontrer des éditeurs qui m'envoient leur dernière nouveauté, de participer à des tables rondes et du coup de lire les romans des autres personnes invitées à la table ronde. Donc j'ai aussi cette ouverture qui fait que je lis des choses que j'aurais jamais lues sinon et qui sont totalement différentes de mon style. Et c'est hyper important de faire ça aussi, je pense.
Quand vous aviez notre âge, quel style de livre vous lisiez ?
Alors, je ne suis pas de la génération Harry Potter que moi j'ai découvert. J'étais majeure, j'avais la petite vingtaine quand j'ai lu les premiers, quand ils sont sortis en France et que j'ai lu les premiers. Moi, j'ai lu Anthony Horowitz, qui fait aujourd'hui Alex Rider, mais de ma génération, c'était L'île du crâne et La porte du diable. Les portes du diable. Il y avait toute une série avec plusieurs enfants qui avaient chacun des pouvoirs, et puis après, dans le dernier tome, ils se retrouvaient. Et puis, j'ai adoré Ma sœur est une sorcière de Dinah Wynne Jones. Et pareil, donc le premier tome raconte les aventures de Christomancy qui a des pouvoirs et on le suit ensuite. J'avais lu tous les autres. C'est pas une série dans le sens où on prend le héros à 40 ans, à 12 ans, à 8 ans. C'est un peu décousu, mais c'est très chouette. Il y a plein de mondes. Et donc, ça s'appelle Les mondes de Christomancy de Dinah Wynne Jones et j'avais adoré. Je pense que j'avais déjà ce goût beaucoup pour l'imaginaire.
Est-ce que un jour vous aimeriez bien changer un peu de registre de livre ?
Je te dis, pour le moment, c'est vrai que je tourne beaucoup. Par exemple, mon gros drame tout à l'heure, je vous avouais que j'étais en train de chercher un nouveau projet, que ça tâtonnait et que je savais pas. Je me suis dit, je refais pas de réécriture de conte. Et en fait, j'ai une idée de réécriture de conte. Et j'hésite un peu à y aller parce que je me dis, bon, j'en ai fait trois. En plus, trois, c'est un bon chiffre. C'est un chiffre de conte. Je veux pas m'enfermer dans quelque chose. Donc, c'est toujours une tension pour quelqu'un qui écrit entre faire des choses qu'on aime bien, creuser ce sillon parce que c'est celui-là qui nous intéresse, et puis être capable aussi de se renouveler. J'essaye en tout cas, j'essaye de pas toujours faire la même chose, et puis on verra bien.
Alors, c'est une question un peu délicate.
Génial,
donc,
c'est les meilleurs, vas-y.
C'est juste que je me pose vraiment la question et j'ai jamais vraiment osé, mais ça gagne bien ou pas le métier d'écrivain ?
Mais il faut la poser. Alors, je suis en plus d'autant plus ravie de la façon dont tu l'as posé la question parce que tu viens de tout dire, à savoir, tout le monde a envie de savoir et si vous googlisez la question, vous ne trouverez pas une réponse exacte pour la bonne raison que chacun a des réalités différentes pour le métier. Ce que je peux vous dire, c'est que sur chaque livre vendu, l'auteur, c'est pas un salaire, donc il n'y a pas d'argent qui tombe chaque mois. Ça veut dire pour moi, tout à l'heure je vous ai expliqué que je travaillais pendant 2 ans sur un roman, c'est 2 ans non payés. Et ces 2 ans qui peuvent ne servir à rien. Une fois que le roman... Alors, c'est moi qui fais 2 ans. Hein. Il peut y avoir des écrivains qui mettent 1 an, il peut y avoir des écrivains qui mettent quelques mois. Dans mon cas, c'est 2 ans. Donc, 2 ans sans rémunération, puis je donne le manuscrit à mon éditrice. Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une éditrice, déjà, puisque même plusieurs. Et puis, j'ai la chance d'être attendue au tournant. J'ai des romans qui marchent plutôt bien. Donc, je suis relativement confiante sur le fait que mon éditrice va prendre le roman, le manuscrit que je lui tends et le publier. Mais ça pourrait ne pas arriver. Elle pourrait le refuser. Elle pourrait trouver qu'il est raté. Enfin, voilà. Donc, il y a déjà ça. Déjà, l'écrivain écrit pendant 2 ans sans sous et sans certitude de sous à l'aboutissement. Ensuite, le roman sort. Et à ce moment-là, sur un grand format... En moyenne, tous, on touche 1 euro à peu près. Donc autrement dit, à chaque fois que quelqu'un achète un livre entre 15 et 20 euros, il y a environ, plus ou moins, 1 euro qui arrive dans la poche de l'écrivain. Et si vous achetez un poche, donc là, on est sur une somme plus basse, hein, on est sur du 5 euros, 6, 7 euros pour l'acheteur. Dans la poche de l'écrivain, c'est 30 centimes qui arrivent. À nouveau, plus ou moins. Chaque écrivain négocie son contrat plus ou moins bien, mais les chiffres sont les mêmes un peu partout. Donc, on est d'accord qu'à raison d'un euro ou de 30 centimes par livre vendu, il n'est pas forcément facile d'en vivre. Mais ça arrive, c'est mon cas. On est 5000 en France à peu près, je pense. Il faudrait revérifier, je n'ai pas les derniers chiffres, honnêtement. Le 5000, c'est un chiffre que j'avais trouvé sur le livre blanc de la GSA, bref, il y a quelques années déjà. Donc, mais tout ça pour dire qu'on est une petite poignée à vivre de l'écriture, plus ou moins bien, mais ça arrive.
Et donc ça, c'est une question un peu plus personnelle.
Ouais.
Pendant quand même ces 2 ans où vous avez aucun salaire versé et vous arrivez correctement à...
Non, forcément. Alors du coup, si moi, par exemple, je vais parler de mon cas, qui est, je pense, le cas de plein d'autres gens. Donc je vous avais raconté un peu, j'ai été prof, puis j'ai quitté mon métier, j'ai écrit 2 cap et 2 mots. Et à l'époque, je voyageais, je faisais plein de petits jobs. J'ai signé le contrat de publication pour 2 cap et 2 mots. Et au moment où j'ai signé le contrat, le roman, il est sorti plus d'un an et demi après. Donc, on est d'accord que là, c'est toute une période où je continue ma vie tout à fait normalement, en sachant qu'un jour, je vais avoir un livre qui sort, mais c'est tout. Le livre sort et la première année, en tout cas, chez Hachette, ça marchait comme ça, on ne touche pas tout de suite les droits d'auteur. C'est aussi ça que je n'ai pas précisé, c'est les fameux 1 euro ou 30 centimes par livre vendu. Ils n'arrivent pas dans la seconde où le lecteur a acheté le livre, ils vont arriver l'année suivante, en fait. Donc, dans les premières années de publication, pour un écrivain qui n'a publié encore qu'un titre, effectivement, nécessairement, il fait autre chose. À moins d'un très, très gros succès, très, très immédiat. Dans les premiers temps, on fait autre chose. Moi, j'ai cette chance que 2 cap et 2 mots a bien marché vite. Et puis, je n'ai pas d'enfant. Enfin, voilà. Après, il y a des conditions de vie aussi qui font que, même avec une somme un peu basse, je pouvais me permettre de ne faire que ça parce que je n'avais pas de grosses dépenses dans mon mode de vie. Donc, dans mon cas, je me suis mise à ne faire plus que l'écriture. J'ai abandonné les petits jobs en freelance que je faisais assez vite. Au fur et à mesure, en fait. J'en ai gardé quelques-uns, puis les dernières années, j'ai arrêté. Mais vous avez beaucoup d'écrivains qui font un autre métier à côté, ouais, bien sûr.
Merci de nous avoir écoutés, Madame Florvesco, et d'avoir répondu à toutes nos questions.
Avec grand plaisir, c'était un très bon moment.
Merci, le Krilge, d'avoir accepté que Madame Florvesco soit présente ici, et Élise, d'avoir fait la technique.